Aujourd'hui, donc, je reçois Ghislain de Marcy. Alors, Ghislain de Marcy est né le 18 octobre 1939. Il est ingénieur civil de l'École des mines de Paris et docteur d'État en géologie. Il est professeur de géologie appliquée à l'Université de Paris 6 et directeur de l'unité mixte de recherche SISIF du CNRS. Il est spécialiste en hydrogéologie. Et parmi les publications, je mentionnerai un certain nombre de ces publications. Tout d'abord, en 1981, il a publié « Hydrogéologie quantitative chez Masson ». En 1986, il a publié « Quantitative hydrogéologie chez Academic Press à New York ». En 1993, avec Beer et Tsang, ils ont édité « Flow and Transport in Fractured Rocks » chez Academic Press, Orlando. En 1995, il a publié « L'eau », paru chez Flammario Collection Domino. Et en 1998, avec Mébec et Fustec, il a édité « La Seine en son bassin, fonctionnement écologique d'un système fluvial anthropisé », qui est paru chez Elsevier. Ghislain de Marcy, donc je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bien, nous allons essayer pendant ces 50 minutes qui sont quand même très, je dirais, avares hein, du temps dont on m'a donné pour vous parler de l'eau. C'est un sujet dans lequel j'aimerais bien parler pendant 2 heures, vous m'en excuserez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler un petit peu de l'occurrence de l'eau, bien sûr sur la planète Terre, mais peut-être dans l'univers pour commencer, pour voir d'où vient l'eau que nous avons. Et puis nous parlerons un petit peu du cycle de l'eau terrestre pour évaluer les ressources en eau disponibles aujourd'hui sur Terre. Et puis, suivant le temps que nous disposerons, nous essaierons de parler des contraintes ou des problèmes de l'eau, soit dans les pays riches en eau, les pays développés en général, et soit dans les pays pauvres en eau, c'est-à-dire en général les pays en voie de développement. Donc voilà un petit peu le programme que je vous propose. Alors ici, j'ai une petite image du Soleil et des planètes qui l'entourent. On divise traditionnellement les planètes qui entourent le Soleil au premier rang de planètes qu'on appelle les planètes telluriques, qui sont en fait fabriquées de roches, faites de roches, et des planètes plus lointaines qui sont, elles, faites de gaz ou d'eau. La Terre porte le nom de planète bleue, hein, voilà une image un peu plus précise de la Terre, elle est effectivement bleue de vue de l'espace, beaucoup moins que Neptune, que nous allons voir dans un instant, qui est, elle, beaucoup plus riche en eau, mais parmi les planètes telluriques, vous voyez qu'elle se distingue par une quantité d'eau beaucoup plus grande que les deux planètes qui nous entourent, qui sont Mars et Vénus. On va le voir dans un instant. Donc nous avons une certaine anomalie parmi les planètes rocheuses d'avoir pas mal d'eau sur Terre, alors que, en général, l'eau se retrouve à beaucoup plus grande distance du Soleil. Voilà des images de Neptune qui devraient mériter le nom de planète bleue. Vous voyez que l'image que l'on voit de Neptune, qui est une planète gazeuse, qui contient beaucoup d'eau et beaucoup plus bleue, la Lune est une planète qui nous entoure, que vous connaissez, et qui est effectivement très pauvre en eau. Uranus est aussi une planète gazeuse, et ceci, ce sont des planètes satellites. Alors, si on regarde maintenant Jupiter, sur lequel on reviendra un instant, c'est aussi une énorme planète gazeuse, on dit parfois que c'est un soleil avorté, qui contient, elle, plutôt du CO2, du méthane et de l'eau, mais qui est entièrement gazeuse et non pas une planète terrestre. Alors, regardons, si vous le voulez bien, la quantité d'eau que possèdent les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes faites de roches. Alors, j'ai représenté ici, avec leur diamètre à peu près, la Terre, Vénus, Mercure, Mars et la Lune. C'est donc l'ensemble des planètes rocheuses, si l'on peut dire. Si on prenait l'eau disponible sur Terre et qu'on la répartissait sur un énorme océan, eh bien, on trouverait une épaisseur d'eau dans l'océan moyen de 3 km, ce qui est quand même beaucoup. Vous savez que l'océan moyen a des profondeurs de l'ordre de 5 km, parfois allant jusqu'à 10, et parfois sur les plateaux continentaux inférieurs à 1 km. Mais en moyenne, si on avait un océan unique, il aurait 3 km d'épaisseur. En revanche, Vénus n'a que 300 mètres d'eau, hein, mais cette planète est très peu observable dans la mesure où son atmosphère est tout à fait opaque et on ne la voit pas très bien. Mars a à peu près aujourd'hui 20 cm d'eau, alors que Mercure et la Lune n'en ont pratiquement pas. Une question peut se poser de savoir pourquoi est-ce que Mars a seulement 20 cm d'eau, hein, toujours la même hypothèse de répartir d'une lame d'eau sur la planète, et vous savez qu'on observe, ou au moins on croit observer, des anciens réseaux hydrographiques fossiles sur Mars. C'est donc que l'on pense qu'il y a eu autrefois sur Mars plus d'eau qu'il y en a aujourd'hui, et que cette eau est donc partie. Alors la raison pour laquelle l'eau de Mars est partie, elle est à peu près connue, c'est que dans la haute atmosphère, la molécule d'eau soumise au rayonnement solaire se décompose en oxygène et hydrogène, et l'hydrogène léger quitte lentement l'atmosphère martienne. Ce phénomène est lent, mais au cours de l'âge de la planète Mars, qui est de l'ordre de 4,5 milliards d'années, comme la Terre, eh bien, ce phénomène a dû être assez actif pour priver peu à peu la planète Mars de son eau. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce mécanisme est aussi présent sur Terre ? Et la réponse est oui. La Terre perd de l'eau par l'atmosphère pour le même mécanisme. L'eau se décompose en hydrogène. L'hydrogène léger n'est pas suffisamment retenu par la gravitation terrestre et s'en va. On a mesuré et estimé la perte d'eau depuis que la Terre existe. Elle n'est que de 3 mètres. Donc vous voyez qu'on a 3 km d'eau. Il ferait donc encore, je dirais, 1000 fois plus de temps que nous n'avons existé pour que notre eau parte par ce mécanisme-là. Ce n'est donc pas un problème préoccupant. Alors, où se trouve cette eau ? Je vous ai parlé, donc, voici une coupe de la Terre. Vous avez ici ce qu'on appelle le noyau, c'est-à-dire essentiellement du fer. Il est solide dans la partie interne, il est liquide encore dans la partie externe. Ceci ne contient pas d'eau. La partie superficielle, qu'on appelle le manteau, qui fait quand même 2900 km, semble contenir de l'eau. On n'en est pas vraiment très sûr. Ce manteau-là, on en voit revenir des émanations lors des éruptions volcaniques. Alors, quand il y a un volcan qui entre en éruption, il crache des fumerolles, des fumées, de l'eau. Donc il y a de l'eau dans ce manteau. Cette eau, si on suppose qu'elle représente à peu près 0,3% en poids de la quantité d'eau contenue dans ce manteau qui est très épais, eh bien on aurait à peu près autant d'eau dans le manteau qu'il n'y en a dans l'océan. Donc quand je vous dis il y a 3 km d'eau, c'est l'océan moyen. En fait, il y a deux fois plus d'eau sur Terre que ce que l'on voit, mais elle est en très faible proportion contenue dans le maillot. Dans le manteau, c'est encore une hypothèse aujourd'hui, mais probablement pour maintenant exacte. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi avons-nous beaucoup d'eau et d'où vient cette eau ? Alors, je fais un petit peu une parenthèse sur l'histoire de la Terre. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années par l'accumulation ou la congrégation, si vous voulez, de petits objets de cette taille qu'on appelle des planétésimaux, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des grands météorites. Ça fait environ 1 ou 2 km de dimension, ça se balade dans l'espace, et puis ils ont tous rentré en collision les uns avec les autres, et cette collision a généré suffisamment d'énergie pour que tout ça fonde, et on arrive à la configuration que vous connaissez, c'est-à-dire le noyau de fer fondu au centre, le manteau pâteux et l'hydrosphère. Il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc ce n'est pas suffisant, ce mécanisme de formation des planètes telluriques par accumulation de matière météoritique n'est pas suffisant. Alors ce qui s'est passé, pense-t-on, c'est ce que nous avons observé, vous et moi, et d'autres, il y a environ 3-4 ans, c'est la collision de la comète Schumacher-Levy avec Jupiter. Ceci est une image de cette comète qui avait une orbite lointaine, n'est-ce pas, autour du Soleil, qui va jusqu'au réservoir des comètes. Et se rapprochant de Jupiter, elle a été brisée par l'accélération de Jupiter et s'est transformée en petits morceaux. Donc ça, c'est une comète unique qui s'est décomposée du fait de cette attraction jovienne par ces petits morceaux qui sont peu à peu tombés sur Jupiter. Voici une image de la collision. L'image n'est pas très bonne, mais la face de Jupiter tourne assez vite, si bien que ces différents points que vous voyez ici, c'est l'impact dans le gaz de Jupiter de chacun de ces petits morceaux de comète. Donc ça fait des espèces de taches que l'on voit ici. Alors c'est ça qui s'est produit sur Terre, et probablement quand la Terre était très jeune. Donc l'essentiel de l'eau que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de collisions de comètes avec la Terre et qui ont amené l'eau que nous retrouvons aujourd'hui dans les océans. Alors, est-ce que ça se produit sur Terre ? Ben, écoutez, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment d'observés. Autrement dit, on n'a pas vu historiquement d'accident d'interception similaire à celui qui s'est passé sur Jupiter en 1997. Il y en a probablement un, qui est un événement qu'on appelle l'événement de Tunguska, qui s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie. Il n'y avait personne pour l'observer. C'était en pleine Sibérie, personne n'y habitait. Le bruit s'en est fait sentir jusqu'à Moscou. L'Académie des sciences moscovites a envoyé une délégation qui est arrivée 3 semaines après et qui a vu que l'emplacement de cet événement, eh bien, la forêt était entièrement détruite et qu'on ne voyait rien. Et donc, ce n'est pas un objet solide qui est tombé. Donc, on a pensé, et c'est une hypothèse, que ça pouvait être l'arrivée d'un morceau de comète qui avait explosé au-dessus de Tunguska. Certains archéologues prétendent qu'en Syrie, en 4800 avant notre ère, enfin avant le temps présent, il y a eu une comète aussi qui serait tombée, dont on trouverait quelques manifestations. Il y a donc, si vous voulez, peut-être avec une fréquence de peut-être un millier d'années, probablement des chutes de comètes qui émettent encore de l'eau sur Terre, mais c'est probablement, si vous voulez, un phénomène mineur. Alors, il y a quand même quelque chose qui est nouveau et intéressant, c'est ce qu'on appelle les microcomètes. C'est une théorie, de nouveau, c'est une observation faite par des chercheurs américains qui disent que, actuellement, donc tous les jours, la Terre est bombardée par des petites masses de glace, c'est des choses qui sont, disons, de l'ordre de quelques mètres, hein, et qui entrent en collision avec l'atmosphère. Elles sont suffisamment rapides pour que la collision avec l'atmosphère fasse fondre l'eau de cette comète et que l'eau arrive, si vous voulez, en forme de pluie sur Terre. Donc, c'est les objets ne sont pas directement vus, mais aucun satellite ne les a vus directement. Il y en aurait, vous voyez, beaucoup, 5 à 10 par jour, d'un diamètre de l'ordre de 6 mètres, qui arrivent avec une vitesse de quelques kilomètres seconde, et le flux actuel estimé, tout ça c'est un chiffre vraiment estimé, est de 3000 mètres cubes par an, ce qui est vraiment très peu de choses par rapport au bilan de l'eau que nous avons sur Terre. Je vous montre quand même quelques images, enfin, vous allez me dire qu'elles ne valent pas grand-chose, c'est absolument vrai, mais ce n'est pas moi qui les ai prises. Voilà, dans certains canaux, donc ça c'est la Terre, et ça ce serait l'effet que fait la microcomète quand elle arrive dans la haute atmosphère. Donc c'est une espèce de on ne voit pas l'objet lui-même, mais disons son influence sur l'atmosphère terrestre. Alors là, il faut avoir la foi pour y croire, mais apparemment, la flèche, c'est juste pour montrer l'objet, ceci serait l'impact d'une microcomète sur l'atmosphère terrestre. C'est controversé, hein, ce n'est pas un phénomène absolument convaincant. Des gens disent que c'est vrai, d'autres disent que ça ne l'est pas. Ce n'est pas significatif au niveau du bilan en eau sur la Terre. Ce n'est pas ça qui alimente la pluie que nous recevons en ce moment. Mais bon, c'est intéressant à savoir. Est-ce que ce flux de comètes varie dans le temps? Autrement dit, est-ce que quand le système solaire se déplace dans l'espace intersidéral et rencontre des portions du ciel plus riches en microcomètes, est-ce que ce flux varie? Pour l'instant, personne n'en sait vraiment rien. Alors, voilà un peu un transparent sur le stock en eau que nous possédons aujourd'hui sur Terre. Donc, vous avez ici le chiffre important, c'est celui de l'eau dans les océans. Je n'ai pas mis le volume d'eau dans le manteau, nous avons vu qu'il était du même ordre que celui dans les océans. Il représente donc 97,4% de la totalité de l'eau dont nous disposons, c'est donc de l'eau salée. Et le chiffre est de 1,350 milliards de kilomètres cubes. Alors, je n'ai pas donné les volumes pour les chiffres suivants. Ceci représente le chiffre suivant, en gros 2%, c'est les glaciers, glaciers polaires principalement, mais aussi glaciers de haute montagne. Le chiffre suivant représente les eaux souterraines, c'est environ 1,5% ou 0,6% du total de l'eau sur Terre. Et avec ces trois chiffres-là, on a l'essentiel. Le reste, ça devient des pouillèmes, c'est-à-dire des fractions de pourcents. Les mers, les lacs intérieurs, l'humidité du sol, l'humidité de l'air, les rivières et l'eau des cellules, tout ça, ce n'est même pas un millième ou un dix millième de la quantité d'eau sur place. Donc l'essentiel des réserves d'eau se trouve bien sûr dans l'océan, dans les glaciers et dans les eaux souterraines. Alors, comment se produit, ça c'était une vision statique, c'est-à-dire la quantité d'eau que nous avons, comment fonctionne la machine hydrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cycle de l'eau, pour expliquer les phénomènes que vous connaissez. Oh, je vais assez vite parce que ce sont des choses connues, mais enfin, je crois que ce qui est intéressant dans ces transparents, c'est les chiffres. Le cycle de l'eau va de l'océan à l'atmosphère, au continent. C'est une espèce d'énorme boucle qui tourne de cette façon-là. Voilà quelques chiffres. L'évaporation annuelle est de 425 000 km3 par an sur les océans et de 71 000 km3 par an sur les continents. Alors cette évaporation sur les continents se fait pour l'essentiel par la transpiration des végétaux. C'est pour ça qu'on appelle ça l'évapotranspiration. Donc les nuages sont alimentés par deux sources, l'océan pour l'essentiel, mais quand même pour une proportion à peu près du quart, par les évaporations sur les continents eux-mêmes. Alors cette eau qui est passée dans les nuages n'y reste en moyenne que 8 jours. Donc le cycle de l'eau ne contient que très peu d'eau dans l'atmosphère. C'est un temps de passage, 8 jours, et puis ça retombe. Alors ça retombe pour l'essentiel quand même sur la mer, 385, et le reste sur l'océan. Bien sûr, la somme de ces deux chiffres-là est égale à la somme des deux précédents, l'évaporation sur les continents et l'évaporation sur les océans. bien sûr, se retrouve immédiatement en pluie. Alors, vous vous souvenez qu'on avait 425 ici et 71 là. Donc, il pleut plus sur Terre qu'il ne s'évapore. Et en revanche, il pleut moins sur mer qu'il ne s'évapore. Alors, ce cycle, qu'est-ce qu'il fait une fois arrivé sur les continents? Eh bien, donc voilà, j'ai... comment est-ce que je vais mettre ça? Voilà. Vous avez ici à peu près les deux chiffres précédents. Alors, les chiffres atmosphériques, 71 000 qui s'évaporent, 111 000 qui tombent en pluie. Que deviennent-ils sur les continents? Eh bien, il y en a environ 27 500 qui se retrouvent immédiatement dans les rivières et qui retournent en mer sous un trajet qui peut aller de quelques jours à quelques semaines pour les plus grands fleuves. Donc ça, c'est le débit de crue des rivières. C'est à peu près, je dirais, par rapport à la différence entre 71 000 qui s'en vont et 111 000 qui arrivent, et donc 40 000 du cycle de l'eau continentale, ces 40 000, vous voyez, il y a plus de la moitié déjà qui repartent tout de suite en quelques semaines dans l'océan. Le reste s'infiltre, c'est ce qu'on appelle les écoulements souterrains, ça représente environ 10 500 km3 par an. Ces eaux qui s'infiltrent ressortent par les sources et le long des trajets des rivières et font que les rivières coulent quand il ne pleut pas. Et une petite fraction, qui est estimée à 2 500 km3 par an, représente la fusion des glaces. Les glaces qui s'accumulent s'écoulent lentement sur les pôles vers les océans et donc le flux annuel d'eau de fusion des glaciers représente 2 500 km3, la somme de ces chiffres faisant, bien sûr, un bilan équilibré. Alors, il est peut-être intéressant de se remémorer ce que les anciens avaient compris du cycle de l'eau. Et par les anciens, je parle des auteurs grecs, des philosophes grecs. Cette philosophie s'étant d'ailleurs transmise jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, le cycle de l'eau n'était pas du tout vu comme le voyait, nous l'avons vu et que je viens de le résumer. N'est-ce pas, les anciens avaient deux problèmes. Le premier, c'était de dire, finalement, les rivières coulent quand il ne pleut pas, donc d'où vient l'eau? Et deuxièmement, les rivières arrivent à l'océan sans cesse et le niveau de l'océan ne monte pas. Donc il faut expliquer ces deux choses. Ben, c'est très simple. On fait s'infiltrer l'océan dans les côtes. L'océan, l'eau salée, bon on n'a pas très, très bien vu encore comment, enfin, par des processus thermodynamiques complexes, est réchauffée et remonte thermodynamiquement et se retrouve dans les rivières. La meilleure preuve est que certaines choses sont chaudes. C'est donc qu'il y a des processus que personne n'avait vraiment identifiés qui, thermodynamiquement, permettent de faire remonter l'eau qui était plus bas. Il faut la faire remonter, donc il faut de l'énergie. Donc c'est complexe, les concepts d'énergie n'étaient pas très clairs, mais on va la faire remonter par ces processus. Et donc l'eau s'infiltre dans les océans et elle remonte directement à travers la côte dans les sources. Alors ça a vécu à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Et oui, je vais vous montrer une petite anomalie qui est grecque d'ailleurs, et qui va dans le sens des observations, excusez-moi, le transparent n'est pas très bon, des observations que je vous donne. Vous avez devant vous l'île de Céphalonie, qui est dans les mers ioniennes, c'est-à-dire entre l'Adriatique et vers la Grèce, et cette île calcaire, qui a d'ailleurs été, en vertu de l'empereur Napoléon Bonaparte, elle était française de 1797 à 1815. C'est en allant en Égypte que Napoléon a conquis Céphalonie. Il a laissé trois soldats, puis il est reparti. Et Céphalonie possède un phénomène jusqu'ici peu expliqué qui s'appelle les moulins de la mer. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Céphalonie. Il y a un petit port qui s'appelle le port d'Argostoli. Et le port d'Argostoli possède cette propriété assez étonnante que vous avez une espèce de petite passe dans lequel l'eau de mer s'engouffre, et puis elle arrive dans un trou, et elle disparaît de la surface du sol, et effectivement, si vous voulez, elle fait ce que le schéma des anciens comprenait, c'est-à-dire que l'eau semble s'infiltrer dans un trou de la terre et disparaître. Alors, ce courant est suffisamment violent pour qu'au XIXe siècle, un entrepreneur ait installé un moulin, qu'on appelle le moulin de la mer, et c'est unique au monde, dans lequel se produit ce phénomène. Alors donc, ayant sous leurs yeux cette observation et ayant ces deux explications cohérentes, la mer ne monte pas parce qu'elle se vide dans la terre et les sources recoulent parce que la thermodynamique permet à l'eau de remonter, eh bien, on avait un bon cycle de l'eau. Alors, c'est probablement pas ça qui se passe. pour aller vite, hein, à Argostoli, c'est ce qui se passe probablement, c'est que dans cette île calcaire, il y a de l'eau douce qui s'infiltre en surface. Cette eau douce se transmet par une fissure que l'on imagine en profondeur, ça n'a pas été vraiment prouvé, et ressort en mer un peu plus bas. Alors, cet effet-là engendre une sorte d'effet de siphon, si bien que l'eau salée de la source des moulins de la mer d'Argostoli est aspirée, si vous voulez, par cet écoulement d'eau douce. Donc, ce n'est pas vraiment la théorie telle que les avaient vues les anciens. Mais alors, nous sommes au XVIIIe siècle, et donc, on arrive dans la science expérimentale, et quelqu'un s'est dit... Oui, mais attendez, l'eau de mer est salée, l'eau qui sort des sources, elle est douce. Il faut donc que la terre qui sépare les sources de l'océan ait la capacité de filtrer le sel. Alors, la science expérimentale commençant, il a donc réalisé l'expérience qui est schématisée ici. Il a pris des sols, hein, dans ses pots de jardin, et il a essayé de mettre de l'eau salée ici et de mesurer ou de déterminer si, après le passage à travers le sol, l'eau était effectivement dessalée. Alors, il a fait l'expérience deux fois, avec de la terre de jardin et du sable de plage. Alors, il s'excuse dans l'ouvrage, dont je vais vous donner le titre, de n'avoir pu représenter que 7 ou 8 pots. En fait, il en avait mis 14. Je ne sais pas si le nombre 14 était magique, mais l'expérience a été faite avec 14 pots. Et voilà ce qu'il dit. Alors, je vous rends compte de l'expérience de filtration par le sable. On suivit le même ordre dans la filtration par le sable, où la quantité d'eau de 14 livres se réduisit également au poids de 5 livres 2 onces. Sa couleur se changea en celle de vin blanc, ce qui est agréable, un peu chargé. Le poids de 24 onces diminua à 23 et 5 grammes selon la balance, et selon l'aéromètre, à 1 once 3 drachmes et 41 grains, ce qui veut dire 8 grains de moins. Donc, il a mesuré la densité. Alors, c'est des unités un peu difficiles à comprendre, mais ce qu'il mesure, c'est la densité de l'eau. L'eau salée est plus lourde que l'eau douce, donc il a vu que, par l'expérience qu'il a faite, il voit la densité de l'eau diminuer. Cette diminution du goût salé et du poids, qui se trouve plus grande dans la filtration par le sable qu'en celle qui se fait par la terre, montre qu'il est le plus propre à purifier l'eau, et comme ordinairement sur le rivage de la mer il y a quantité de sable, on ne doit pas s'étonner si l'eau qui passe à travers, quoique en petite distance, devient sur le champ presque insipide. Donc en 1715, ce monsieur a publié quelque chose qui confirmait la théorie erronée des Grecs, en faisant une expérience qui est foireuse, parce que si vous la refaites, vous ne trouvez pas ces résultats-là. Alors, je suis malheureusement obligé de vous dire que cet ouvrage, paru donc à l'Académie royale des sciences de Paris en 1715, mais publié à Amsterdam, d'ailleurs on a parlé tout à l'heure des ouvrages d'Elsevier, Elsevier est un éditeur hollandais, comme vous le savez, la prééminence des Hollandais sur l'édition scientifique est ancienne. J'ai peur de devoir vous dire que c'est un ancêtre. Bon, alors, avançons. Je vous rappelle rapidement les chiffres que nous avons vus sur les transparents. Débit de ruissellement des rivières, 27 000. Débit de base des nappes, 10 500. Débit de fonte des glaciers, 2 500. Et, en gros, ce qui coule sur Terre, c'est 40 000 km3 par an. Alors, cette eau est malheureusement assez inégalement répartis sur la planète. Alors, cette coupe représente une vue allant du pôle à l'équateur, avec donc ici en rouge la température et ici en bleu les précipitations. Alors, la température évolue entre 0 et 40 degrés, donc en fait on arrive à 25-30 degrés dans les régions chaudes équatoriales. Et si vous regardez les précipitations, eh bien, vous avez cette anomalie qu'au pôle, d'abord, il ne pleut que très peu, hein, c'est ce qu'on appelle les déserts froids. Dans les régions tempérées, c'est ici les zones tempérées, végétation de feuillus et de steppes, on a une précipitation qui arrive à peu près à entre 500 et 1000 mm par an. À Paris, il pleut à peu près 750 mm par an. Et puis, on arrive dans ce qu'on appelle la ceinture désertique chaude, c'est-à-dire la latitude du Sahara, si vous voulez, où il ne pleut pratiquement pas. Et puis, on revient à des précipitations extrêmement élevées dans les zones tropicales, puisqu'on dépasse 2 mètres de pluie, 2000 mm de pluie par an. Alors, que devient cette eau dans le sol? On va parler un tout petit peu des différents types de nappes. Ce schéma ne va pas tenir dans le... Bon, écoutez, non, on va passer, hein, c'est pas très grave. Que devient l'eau qui s'infiltre, hein, n'est-ce pas ? Nous avons vu que dans le cycle de l'eau, il y a l'eau qui tombe, qui repart à l'atmosphère par l'évaporation et la transpiration des végétaux, il y a l'eau qui arrive directement dans les rivières et qui ruisselle, et puis il y a celle qui arrive et s'infiltre dans les nappes et soutient les rivières. Alors voilà un peu une schématisation extrêmement rapide de ces écoulements. Vous avez ici une rivière, ce serait une coupe géologique, si vous voulez, ça c'est une vallée, au centre de la vallée une rivière. Je suppose que ces sédiments sont perméables, ce serait du sable, des calcaires fins, des choses comme ça. Au-dessous de la surface du sol, vous avez une zone qu'on appelle une zone non saturée dans laquelle cohabitent de l'air et de l'eau, et à une certaine profondeur, une nappe, ce qu'on appelle la nappe souterraine, qui se dirige et s'écoule vers la rivière et qui fait donc que l'eau s'écoule dans les rivières, alimentée par les nappes, quand il ne pleut pas. Si on passe à un climat aride, je ne suis pas allé très très loin, si vous allez en Afrique du Nord par exemple, hein, ce n'est pas des climats totalement arides, si vous tombez à 500 mm dans un climat un peu chaud, comme le nord de la Tunisie ou l'Algérie, eh bien, le schéma de ces mêmes nappes que nous aurions vues avec une vallée, une rivière dans le centre, eh bien, il est inversé par rapport au précédent, c'est-à-dire que le niveau de la nappe, au lieu de concourir à l'alimentation de la rivière, est alimenté par elle. C'est-à-dire que quand il pleut, l'oued, ce qu'on appelle la rivière qui s'appelle maintenant un oued, entre en crue. Dès que la pluie cesse, en fait, la crue s'arrête et l'oued devient sec, ce sont donc des rivières temporaires. Mais pendant la crue, l'oued infiltre un peu d'eau dans son lit et perd de l'eau qui, elle, alimente la nappe. Bien qu'on aussi des nappes dans les pays arides, mais elles sont alimentées par des mécanismes opposés de ceux que nous connaissons dans les pays tempérés. Alors, que font ces nappes ou ces rivières ou ces ouettes dans les pays arides? Eh bien, en général, on appelle ça des systèmes endoriques, c'est-à-dire que l'eau n'a pas la force de rejoindre l'océan. Et on retrouve dans le paysage des vallées, des fonds plats, dans lesquels ces eaux s'accumulent et s'évaporent. Et vous avez ici une image que j'ai prise à Death Valley, en Californie, la vallée de la mort. Et vous voyez ici, cette eau évaporée a laissé son sel en surface, et on a donc d'immenses étendues de sel qu'on retrouve assez bien dans les pays arides, où ce sont simplement toutes les eaux qui n'étaient pas nécessairement très salées au départ, mais comme elles laissent tout leur sel pendant les millénaires, eh bien on arrive à ces accumulations de sel. Alors nous avons encore deux autres types de nappes dont je vais rapidement parler, ce qu'on appelle les nappes captives, ce sont des nappes en général profondes, je vous en donnerai un exemple dans la région parisienne qui est assez connue, ces nappes présentent des trajets plus compliqués, ils descendent en profondeur à des profondeurs par exemple de quelques centaines ou même quelques milliers de mètres en dessous de la surface du sol. Elles sont alimentées uniquement par leur zone d'affleurement, c'est-à-dire la zone où la nappe, la partie perméable de ce système est en contact avec l'atmosphère. L'eau s'infiltre, circule lentement dans ces eaux, dans ces couches et va en général ressortir sous forme de source, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la zone d'infiltration. Si l'on atteint ces nappes profondes par des forages, il peut arriver que ces forages soient suffisamment en pression à cause de la différence de cote entre l'amont et l'aval pour que le forage soit diartésien, c'est-à-dire qu'il coule tout seul. Vous savez qu'à Paris, nous disposons d'une telle nappe. Il s'agit de la nappe de l'Albien. Voilà une rapide schéma du bassin parisien. Nous sommes ici à Paris. Vous avez dans l'Yonne, ici, une couche de sable qui affleure. Cette couche de sable se prolonge sous nos pieds et vient réaffleurer en Normandie et plus précisément en fait en mer. Et l'eau qui s'infiltre ici ressort après environ 40 000 ans, puisque le temps de transfert est quand même relativement lent, de l'autre côté du bassin de parisien, et quand elle arrive à Paris, elle a une vingtaine de milliers d'années et elle est captée dans certains captages que certains d'entre vous connaissent, au moins pour les Parisiens de souche. Oui, il y a un captage célèbre, c'est le captage du Square Lamartine, hein, qui se situe dans le 16e et dans lequel on peut aller se remplir ses bouteilles d'eau, et certains Parisiens le font chaque semaine pour s'alimenter en eau qui a 40 000 ans, c'est intéressant. Je passe là-dessus. Alors, autre système souterrain dont on parle beaucoup trop, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les systèmes karstiques, c'est-à-dire les rivières souterraines. Hein, voilà une image qui a été prise d'un spéléologue qui est en train de traverser ces gouffres. Ceci, c'est un cas très particulier. Hein. Ce n'est de l'hydrogéologie ou de la science des mouvements de l'eau dans le sol qu'une vision très particulière qui n'est valable que pour les paysages calcaires, donc les grands causes que vous avez dans le Massif central, la bordure sud du Massif central, le Jura, parfois dans les Pyrénées, mais qui n'est absolument pas le cas général. ces reliefs en surface sont assez particuliers dans la mesure où ils ne disposent en général pas de rivière, on ne voit pas d'écoulement en surface, tout s'infiltre, l'eau s'infiltre dans des dépressions de cette nature, il y a un peu d'eau qui peut s'accumuler quelques jours et puis s'infiltrer. Cette eau, dans le calcaire, dissout la roche et agrandit les fissures initiales que peut posséder ce milieu. Et c'est ainsi qu'on arrive à ces vides assez particuliers qu'on appelle des systèmes karstiques que l'on retrouve parfois dans, mais uniquement dans les pays calcaires. Voilà une coupe d'un de ces systèmes avec des puits verticaux qui peuvent être extrêmement importants. Celui-là a environ plus de 1000 mètres. C'est le gouffre de Calernum dans les Alpes-Maritimes. Et l'eau, finalement, chemine le long de ce gouffre et arrive à circuler à la base de ces séries calcaires et se dirige vers l'aval. Donc ici, c'est un élargissement tout à fait particulier de ces eaux par dissolution, mais ce n'est pas le cas général de la circulation des eaux souterraines. En région parisienne, il n'y a pratiquement pas de système karstique de cette nature. Bien, alors voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les généralités du cycle de l'eau. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à quelques éléments sur la consommation d'eau et essayer de parler du problème de l'eau, qui préoccupe un peu tout le monde. Alors voilà quelques... Recordons d'abord la colonne ici pour l'an 2000, c'est une estimation de la consommation mondiale. Donc ces chiffres sont en kilomètres cubes par an. On compte donc environ 3250 kilomètres cubes pour l'agriculture, 1280 pour l'industrie et 661 pour l'eau domestique. L'eau domestique, c'est évidemment l'eau de boisson, mais aussi l'eau de l'utilisation urbaine, toilette, lavage, etc., tout ce qui est le besoin des hommes. Donc le total de ces chiffres, 5191 km3 par an. Alors ce chiffre, il faut le comparer, et comme je n'ai pas de mémoire et que je suppose que vous n'en avez pas non plus, aux 40 000, hein, les 40 000 qui sont en gros l'eau qui s'écoule sur Terre. Les 40 000 qui s'écoulent sur Terre, je vous rappelle qu'il y en avait 27 000 ou 27 500 qui étaient le débit en crue des rivières et 10 500 qui est le débit de base, c'est-à-dire ce qui s'écoule quand il ne pleut pas. J'exclus les 2 500 de glace dont on ne sait pas faire grand-chose aujourd'hui. Donc, si on dit qu'on ne peut pas retenir le débit de crue, eh bien, le débit de base des rivières est de 10 500 et aujourd'hui, on en consomme à peu près la moitié. Donc vous voyez, à l'échelle planétaire, le problème de l'eau n'est pas, si on le globalise, dramatique, en ce sens qu'on n'en est qu'à une consommation de la moitié de l'eau, je dirais à peu près disponible, étant entendu qu'on peut essayer de construire des barrages pour retenir une partie de celle-là. Enfin quand même, c'est quand même beaucoup, et surtout quand on sait que la consommation et l'utilisation de l'eau n'est pas du tout en rapport avec la disponibilité de l'eau sur Terre. Autrement dit, il y a des zones beaucoup plus riches en eau et des zones beaucoup plus pauvres en eau. Alors, si on regarde les consommations, eh bien, alors attendez, c'est peut-être intéressant quand même de voir les évolutions entre l'an 2000, c'est-à-dire aujourd'hui, et par exemple le début du siècle précédent. Hein. Vous voyez que les consommations ont été multipliées à peu près par des facteurs de l'ordre de 10, hein, de 10 ou même plus, 50 pour celui-là, ici c'est à peu près un peu moins de 10, ici c'est beaucoup plus. Donc l'augmentation de la consommation est extrême. Alors, pourquoi est-ce que cette consommation est aussi importante? C'est évidemment les problèmes de la démographie. On est passé d'une planète qui vient de dépasser 6 milliards de personnes, et le problème de l'eau est intimement lié à l'augmentation de la démographie, et donc au besoin croissant de nourrir sur cette planète les 6 milliards de personnes qui existent aujourd'hui, et les 7 ou 8 milliards, ou 10 ou 12 qui pourraient y habiter plus tard. La croissance la plus importante, c'est évidemment l'agriculture, et l'agriculture, qui représente 63% des besoins, sert à l'irrigation des terres, je dirais, dans les zones insuffisamment arrosées par l'eau. Ces chiffres sont un petit peu faussés dans le sens que j'ai cumulé prélèvement avec ce qu'on appelle consommation. Alors ici, vous avez un diagramme qui représente pour l'an 2000... les chiffres ne sont pas tout à fait... Suivant les auteurs, il y a les bons auteurs et les moins bons, les chiffres ici, au lieu de 5000, il est à 4000, celui-là. Bon, enfin, disons que les ordres de grandeur sont à peu près là. On n'a pas beaucoup de précision sur ces inventaires. Alors ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire prélèvement. Donc ici, vous avez l'agriculture, là, vous avez l'industrie, là, vous avez la consommation humaine, et ici, ce petit trait noir, c'est les pertes dans les barrages. C'est-à-dire que quand on construit un barrage, on accumule de l'eau, et l'eau s'évapore. puisqu'elle est en contact avec l'atmosphère. Donc on perd de l'eau. Donc ceci, ça représente la perte d'eau par évaporation des barrages. En revanche, l'eau que nous consommons, par exemple l'eau que nous, à Paris, nous consommons, qui est de l'ordre de 250 litres par jour et par habitant, en fait, nous ne la consommons pas. Nous l'utilisons, nous en servons pour faire de la vaisselle, pour laver, pour ceci, cela, et nous la rejetons dans le milieu. Donc elle n'a pas disparu. Donc en fait, une consommation d'eau, il faut distinguer ce qui est véritablement prélèvement et l'eau disparaît, de ce qui est on prend l'eau et puis on la rejette polluée en général. Alors, quelles sont les véritables consommations d'eau ? C'est l'agriculture. L'agriculture, quand elle utilise de l'eau, elle la répand sur les champs, cette eau s'évapore, elle a donc disparu, elle n'est pas remise dans le milieu naturel. Donc si on distingue consommation et prélèvement, eh bien, vous voyez que les consommations sont à peu près la moitié des prélèvements, puisque, et si je me place en l'an 2000 ici, vous avez l'agriculture qui représente l'essentiel, hein. L'industrie et la consommation d'eau humaine est négligeable, parce qu'en fait, on rejette l'essentiel de l'eau que nous utilisons. Hein. Alors si on la rejette après l'avoir épurée, elle peut éventuellement être réutilisée. Donc la consommation ne donne pas une vision réelle de ce qu'on utilise. Et vous voyez que là, à ce moment-là, c'est véritablement les barrages, pour une part, qui évaporent eux et perdent de l'eau, et l'agriculture, qui sont les véritables consommateurs de l'eau sur Terre. Alors ça, j'ai les mêmes chiffres pour d'autres continents, mais enfin, abrégeons, parce que j'ai ici un transparent qui est intéressant. C'est l'évolution des surfaces irriguées par habitant sur Terre. Regardons simplement le chiffre en rouge ici, c'est-à-dire l'évolution sur le monde entier. Hein. Eh bien, vous voyez que la surface irriguée par habitant est en train d'évoluer. C'est pour 1000 personnes, donc on a environ 40 hectares. On est passé par un maximum dans les années 60 à peu près, et maintenant nous sommes en décroissance, ce qui ne veut pas dire qu'on irrigue moins, c'est le contraire, on irrigue de plus en plus. Mais comme la croissance de la démographie est plus importante que la croissance de la surface irriguée, eh bien, le total des surfaces irriguées par personne est en train de diminuer. Alors, ceci conduit à essayer de faire des prévisions, qui sont des prévisions faites par les Nations Unies, celle-là est pour 2025, pour dire où est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'eau. Alors, cette carte donc, de 2025 est basée sur l'hypothèse suivante, c'est de dire, si on suppose que la croissance démographique dans chacun des pays du monde reste ce qu'elle est à l'heure actuelle, donc une croissance qui dépasserait les 6 milliards, arriverait peut-être à 10 milliards en 2050, et si on fait l'hypothèse que les pays se satisfont des ressources en eau qu'ils ont sur leur territoire, eh bien, voilà où on va avoir des problèmes, c'est les zones en rouge, hein, les zones en rouge que vous avez ici. Ça, c'est des zones où vraiment il manque d'eau, et là où il y a des problèmes de ce qu'on appelle de stress hydrique, c'est-à-dire de manque, de difficulté de ressources en eau. Alors, vous voyez que les zones déficitaires en eau sont presque systématiquement à la lassitude des déserts chauds dont j'ai parlé, c'est-à-dire le Sahara, l'Afrique du Nord, l'Arabie Saoudite, etc., où, effectivement, la conjugaison d'une augmentation de la démographie et d'une pauvreté intrinsèque de ces pays en eau disponible fait qu'il y aura des problèmes d'eau. On retrouve quand même de façon assez surprenante, ici la Pologne, où il manquera d'eau, hein, l'Inde, mais l'Inde pas aussi sévère que ces pays expliqués en rouge, l'Afrique du Sud ici, quelques pays d'Amérique du Sud également. Donc voilà, pour 2025 et sous le couvert de ces prévisions, les régions du monde où se poseraient des problèmes d'eau. Il faut bien quand même faire attention que ces hypothèses sont très restrictives et que, comme je l'ai dit au départ, le problème essentiel, c'est un problème de démographie. Donc la démographie continue à monter. Il faut bien se rendre compte que d'un jour ou l'autre, il faudra bien arrêter. La démographie ne peut pas croître indéfiniment et qu'il y aura bien un phénomène physique qui viendra limiter la possibilité de faire vivre sur Terre plus de... Alors quel est le chiffre au maximum? Est-ce que c'est 5 milliards, 5 on l'a dépassé. Est-ce que c'est 10 milliards? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 20? Mais à un moment donné, on va toucher des limites physiques. On ne pourra pas nourrir ou faire boire ou faire cohabiter autant d'individus sur Terre. Alors, ce que ces problèmes d'eau nous manifestent, c'est que je pense que c'est dans le domaine de l'eau que cette limite physique arrivera le plus tôt. Autrement dit, c'est le facteur limitant. Le problème est démographique, ce n'est pas un problème d'eau, mais le problème viendra du fait que aux endroits où la démographie augmente, eh bien, il n'y a pas les ressources en eau correspondantes. Alors, on peut évidemment résoudre ce problème de façon globale. Si la planète essaie de résoudre ce problème de façon globale, on pourrait envisager de transférer dans les pays qui n'en ont pas l'excès d'eau que l'on peut récolter et utiliser dans les pays qui en ont. L'Amazon, par exemple, est un fleuve totalement inexploité qui représente à lui seul presque les deux tiers des écoulements superficiels. Donc si, par un moyen dont je ne veux pas essayer d'imaginer le coût, on disait qu'on emmène au Sahara l'eau de l'Amazon, le problème de l'eau est résolu. Donc le problème de l'eau n'est pas un problème physique de l'eau, c'est un problème économique, si vous le voulez. Ce qui coûterait très cher d'amener au Sahara l'eau de l'Amazon, mais c'est un problème économique, ce n'est pas un problème physique. Et le problème physique, il vient d'une limitation, une limitation de la démographie, la Terre ne peut pas supporter indéfiniment une augmentation de la population, et donc le premier paramètre dans lequel ceci se traduira sera les problèmes de l'eau. Alors, parlons rapidement, si vous voulez, de quelques-uns des... qu'est-ce qui me reste comme temps, monsieur ? 10 minutes. Bon, allez, écoutez, on va parler rapidement un tout petit peu de la façon dont certains pays du monde ont essayé de résoudre... Je prendrai simplement quelques exemples intéressants. On commencera par parler peut-être de ce que fait la Libye. C'est donc un de ces pays rouges. La Libye, et comme vous le savez, je vais peut-être reprendre une carte, c'est le voisin à l'est, de la Tunisie. Ce n'est pas un pays très peuplé, mais c'est un pays très riche. Voilà, la Libye se trouve ici. C'est un pays qui s'étend dans le Sahara, très aride, et qui possède des ressources en eau extrêmement limitées. Alors, les Libyens ont créé un projet qui s'appelle la Rivière Verte, ou en anglais « The Great Man-Made River », qui consiste à aller exploiter dans le Sahara des ressources dans des nappes captives profondes qui sont fossiles. Ces eaux se sont infiltrées dans le Sahara il y a environ 7 à 10 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, l'Europe était glacée, on avait encore des glaciers jusqu'en Belgique, pas en France, mais en Belgique, et le niveau de la Manche était environ 100 mètres plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait aller à pied en Angleterre. Ben, en ce temps-là, le Sahara était vert, il y avait d'ailleurs des autruches qui y vivaient, et il y pleuvait. Donc les nappes du Sahara se sont remplies il y a 10 000 ans. Les Libyens, sachant ça, ont décidé qu'ils allaient estimer ces ressources fossiles, et ils ont décidé de construire des conduites d'environ 4 mètres de diamètre sur une distance de 700 km entre l'endroit où se trouvent ces ressources en eau souterraines et la côte où vivent les populations, et ils transfèrent, le projet a commencé en 1991, il n'est pas encore terminé, ils vont l'exploiter à raison de 5 millions de mètres cubes par jour, ce qui représenterait 1,5 km cubes par an, c'est-à-dire, compte tenu des volumes estimés des réserves fossiles, qu'on pourrait exploiter ces eaux pendant 20 000 ans. Donc il n'y a pas un problème, si les chiffres sont exacts, de tarissement. Les quantités stockées sont énormes. Mais alors le projet n'est peut-être pas très intéressant à voir. Enfin, voici quelques images. Donc les champs captants sont au Sahara, avec d'énormes champs ici de forage juxtaposés, des réservoirs de stockage, un aqueduc de 4 mètres de diamètre sur environ 1000 km, et puis des répartitions dans différents ouvrages d'irrigation, etc. Alors évidemment, le coût de l'eau produite par ce système est probablement aussi cher que d'aller chercher de l'eau dans l'Amazon. C'est énorme, c'est un calcul qui, économiquement, ne tient pas. Ceci étant, le Libye est un pays riche, et ils peuvent donc se le permettre, et irriguer avec cette eau-là produit du blé qui est à plusieurs fois le cours mondial du blé. Donc, si vous voulez, c'est un non-sens économique, mais c'est une volonté politique du président libyen de résoudre le problème de l'eau avec ses propres ressources. Que font les autres pays ? L'Inde construit des barrages et essaye de récolter l'eau de pluie en faisant des espèces de citernes pour récolter, comme on le faisait autrefois, l'eau sur la surface des sols imperméables. Vous avez entendu parler du barrage des Trois Gorges en Chine sur le fleuve Yangtze qui va être une énorme réserve pour essayer de retenir ces eaux de crue. L'Espagne qui manque d'eau, elle s'est dit on va l'acheter à la France. Donc il y a un projet de canal, c'est pas l'Amazone mais le Rhône est quand même assez arrosé. Attendez, je suis obligé de ne pas sortir de ce carré. Est-ce que je sors de ce carré ? Non, ça va ? Ça va, bon. Excusez-moi, j'avais oublié ces détails. Le Rhône a assez d'eau. En gros, il coule en moyenne 700 mètres cubes seconde dans le Rhône à l'aval. Les Espagnols voudraient nous en acheter 20. Bon, 700 sur 20 sur 700, on peut encore leur donner ça. Il y a des gens qui sont prêts à le leur amener par canot, dans la mesure où on a déjà construit sous l'influence de Philippe Lamour, ce qu'on appelle le canal du baron de Languedoc. C'est un canal qui prend de l'eau dans le Rhône et qui l'amène jusque dans le Languedoc, c'est-à-dire à mi-chemin des Pyrénées. Donc prolonger ce canal par quelques tunnels et arriver à Barcelone, c'est faisable. C'est un projet que l'Europe soutient avec beaucoup d'énergie parce que ce serait la première fois qu'on ferait un transfert intracommunautaire de ressources aussi importantes que de l'eau. Donc ça intéresse beaucoup l'Europe. Ceux qui n'aiment pas beaucoup ça, c'est les agriculteurs français, parce qu'ils disent, attendez, cette eau, les agriculteurs espagnols, ils vont irriguer leurs tomates, et puis ensuite on va arriver les camions de tomates en France. Alors ça ne plaît pas énormément. En revanche, les Espagnols me disent, mais non, on va le donner cette eau pour la ville de Barcelone, c'est donc uniquement pour le lavage des rues, pour les gens qui veulent boire, enfin en Espagne on veut beaucoup de vin, mais enfin, peu importe, l'eau ne servira en rien à l'agriculture. Auquel cas les Français disent, oui, on n'est pas fous. Si nous, on vous donne l'eau pour alimenter Barcelone, l'eau que boit aujourd'hui Barcelone, et qui sera donc libérée, vous l'utiliserez pour faire de l'agriculture, messieurs. Alors là, le débat repart, et pour l'instant, ce projet, je ne sais pas s'il se fera. Les Québécois, qui ont beaucoup d'eau dans le Saint-Laurent, disent, eh bien, écoutez, on va le mettre en bateau, et on l'amène à qui veut. Seulement, il faut le payer. Alors, les moins lointains, c'est les Mexicains. Et il y a des vagues projets d'amener de l'eau, seulement, c'est encore un problème de coût. Hein. Malte est desservie par dessalement d'eau de mer. Malte manque d'eau. Là, c'est une possibilité infinie, je dirais, de fabriquer de l'eau douce. Il suffit de prendre de l'eau de mer et de la dessaler. Alors, ça coûte, mettons, de 1 à 2 dollars par mètre cube, c'est-à-dire de 6 à 12 francs par mètre cube. Bon, c'est beaucoup et c'est peu. La facture d'eau à Paris, elle est de 18 francs par mètre cube, 18 à 24 francs suivant les communes de la région parisienne. Donc, si on dit qu'on dessale de l'eau de mer, on pourrait la payer 6 quand on la vend 18, parce qu'il faut quand même la transporter, la purifier, etc. Donc, ce n'est pas déraisonnable. Le Maroc, en particulier, a dit « Nous allons construire 2 centrales nucléaires rien que pour dessaler de l'eau de mer et pouvoir irriguer. » Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que le problème de l'eau n'est pas un problème physique, c'est un problème économique. Si on veut de l'eau, on peut en faire. On peut en faire par dessalement ou on peut en faire par transport. D'autres solutions, transfert par canot, j'en ai parlé. Voyons quelques exemples. Ça, c'est un problème politique. Hein. C'est la Moyen-Orient, le problème du Moyen-Orient. Là, il y a, évidemment, on est dans la partie Arabie Saoudite, la partie rouge de mon graphique précédent. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cette partie-là, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak, sont traversées par des fleuves énormes qui s'appellent le Tigre et l'Euphrate. Et le Tigre et l'Euphrate ressemblent à peu près au Rhin, c'est-à-dire des fleuves qui charrient plusieurs milliers de mètres cubes par seconde, c'est-à-dire d'énormes ressources en eau. Malheureusement, ces ressources en eau prennent naissance en Turquie. Donc c'est aux Turcs qui tiennent en quelque sorte les clés du robinet. Alors, il y a une dizaine d'années, les Turcs ont dit, ben, nous on est croyants, donc la Mecque manque d'eau, on va construire une conduite qui emmènera notre eau depuis nos barrages, qui traversera toutes ces zones-là, et qui arrivera à la Mecque. Mais il fallait que ils voulaient bien donner l'eau, mais il fallait que l'Arabie paye la construction du canal. Alors l'Arabie a trouvé que c'était un peu cher, et donc ce projet ne s'est pas fait. Alors les Turcs, un peu déçus, ont dit, ben, attendez, si l'Arabie saoudite ne veut pas de notre eau, eh bien on va l'utiliser nous-mêmes. Donc ils ont construit, ils sont en train d'en construire davantage, des barrages pour retenir cette eau et diverger sur les zones moins arrosées de la Turquie du Nord. Le plus grand barrage, s'appelle le barrage Atatürk, a été construit un peu avant la guerre du Golfe. Alors évidemment, la tension dans les pays, disons, tributaires, était intense, en ce sens qu'ils disaient, eh bien, si vous remplissez de barrage, il n'y aura plus d'eau dans les rivières. Alors, pour eux, on pourrait même envisager que la Turquie ait soudoyé les Américains de faire la guerre du Golfe, parce que pendant la guerre du Golfe, parce que tout le monde était occupé à autre chose, ils ont fermé les vannes et ils ont rempli le barrage tranquillement, hein, parce que personne ne s'intéressait à savoir ce qui se passait dans l'eau du Tigre et l'Euphrate, alors qu'on se battait dans cette partie ici du monde. Donc la Syrie et l'Irak ont protesté, mais disons un peu tard, et actuellement c'est un contentieux très important dans cette région du Moyen-Orient, de savoir comment l'eau du château d'eau turque sera ou non équitablement distribué à l'intérieur de ces pays. Donc en Syrie, au Liban, en Irak, en Jordanie, en Arabie Saoudite, si les Turcs décidaient de distribuer leur eau de façon équitable, il n'y aurait pas de problème d'eau. Le problème, c'est de la coopération internationale et de la décision éventuelle de donner cette eau à ceux qui en ont besoin. Voilà quelques chiffres.
en 2000, ou en 1995, c'est à peu près la même chose, les Turcs disposaient de 3300 mètres cubes d'eau par personne dans leur pays, alors que Israël en a 280, le Liban 1600 et la Syrie 1000. En 2025, les projections parlent de 2400, 460, 128, 200. Donc vous voyez que les Turcs sont riches, alors que les autres pays, mis à part le Liban, qui est lui-même un petit peu riche, seront pauvres en eau. Donc c'est un problème de répartition, c'est un problème international, il n'y a pas de problème catastrophique du point de vue technique sur l'eau, c'est un problème de décision de la répartition. Bon, voilà un petit peu les problèmes, au moins comme je les vois en matière de ressources en eau. Il y aura des problèmes, c'est clair, les problèmes sont liés à des croissances démographiques, on peut les résoudre si on veut. Les chiffres mis en avant pour les résoudre sont de l'ordre de 80 milliards de dollars par an, hein, si on voulait résoudre les problèmes de l'eau sur Terre. Bon, si vous prenez un parallèle, le programme américain qui ne s'appelle plus Star Wars, mais qui est le bouclier antimissile américain qui a d'ailleurs été testé il y a environ un mois et qui s'est planté. Bon, eh bien ça, ça coûte à peu près le même prix, hein, 80 milliards. Bon, il faut savoir, est-ce qu'on préfère faire des boucliers antimissiles ou est-ce qu'on préfère faire, disons, résoudre par des moyens techniques les problèmes de l'eau, c'est un problème dont on pourrait débattre. Hein. Mais le problème est encore une fois économique ou démographique, il n'est pas un problème d'eau à vraiment parler. Alors, j'ai fini mon temps, c'est ça que vous êtes en train de me dire, non? Pas tout à fait, presque. Alors, je ne vais pas en parler, mais pays tempérés. Je dirais que les pays tempérés... J'ai tous les transparents pour vous expliquer ça pendant deux heures, hein, mais disons simplement quels sont les points importants. Ce n'est pas tellement la quantité d'eau. On ne manque pas d'eau dans nos pays, peut-être un petit peu la Pologne, mais enfin, ce n'est pas terrible. Nos problèmes sont quand même beaucoup plus des problèmes de qualité des eaux, hein, qualité des eaux de distribution ou qualité des eaux du milieu, c'est-à-dire tous les problèmes de détérioration de la qualité dans l'environnement, eutrophisation des rivières, eutrophisation des bords de mer, etc. Donc il y a un problème de protection de la qualité de l'eau vis-à-vis des activités humaines, aussi bien agricoles, mais surtout agricoles, que industrielles. Nous avons des problèmes qui sont des problèmes de crue, c'est-à-dire d'excès d'eau pendant quelques périodes de l'année, et qui demandent aussi des problèmes d'érosion. Les sols à nu engendrent, du fait de l'excès d'eau, des problèmes importants de perte en sol, dont je n'ai pas le temps de parler. Les problèmes de sécheresse sont plutôt des problèmes conjoncturels. Il y a eu une sécheresse en 1976, elle peut se reproduire. Je dirais que la sécheresse n'a jamais été au point qu'on en vienne à manquer véritablement d'eau. C'est un problème plutôt de conflit d'usage. C'est-à-dire qu'il faut déterminer, est-ce qu'on autorise de laver les voitures, on n'arrive plus à les laver, est-ce qu'on autorise l'irrigation, est-ce qu'on n'autorise plus. Mais il n'y a pas véritablement, dans nos pays tempérés, de problèmes importants. Peut-être le problème quand même le plus, à moyen terme, préoccupant, est le problème de... des variations climatiques liées à l'effet de serre. Il est possible, mais plus que possible, il est probable que l'augmentation de la température à terme, vous savez qu'on va gagner quelques degrés dans les 10-20 ans qui viennent, conduise à un déplacement des zones climatiques, c'est-à-dire que le climat qu'on a aujourd'hui à Marseille, on l'aurait à Lyon, le climat de Lyon, on l'aurait à Paris, et le climat de Paris se trouverait un petit peu plus haut. Donc on va un peu diminuer les précipitations, vraisemblablement sous nos climats. Et on va surtout beaucoup modifier le comportement des montagnes. Hein, les sports d'hiver vont devenir difficiles. Hein, il n'y aura probablement plus beaucoup de neige à faire du sport d'hiver, ou alors quelques années seulement. Hein, donc il y aura des problèmes de cette nature qui vont bien sûr modifier le cycle de l'eau. Et il y aura peut-être à cause de cela des tensions locales ou des diminutions des ressources en eau dans les pays, l'Espagne, le Midi, l'Italie, qui pourraient être résolues par des problèmes économiques de nouveau. J'aurai quelques exemples pour parler plus en détail de ça, mais je crois que mon temps de parole est maintenant passé. Merci.
Je voulais demander à quel moment est apparue l'eau dans l'univers, à peu près, la molécule d'eau, si on le sait.
Alors, la création de l'univers remonte à 15 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, et le Big Bang a conduit à ce qu'on appelle la création des noyaux, qui sont peu à peu formés, à partir des noyaux légers comme l'hydrogène, c'est l'essentiel de l'univers, vous savez que l'essentiel de l'hydrogène est fabriqué à partir de l'hydrogène, et puis ensuite... par fusion de l'hydrogène, on a fabriqué l'hélium, et petit à petit, on est arrivé aux atomes un peu plus lourds, dont l'oxygène. Alors, ceci s'est fait à la nucléation initiale, c'est-à-dire au Big Bang, et ça s'est fait également par la suite, par les explosions d'étoiles. Quand un soleil ou une étoile arrive en fin de sa vie, eh bien, passe par une phase de géante rouge, et ensuite elle passe par une phase de ce qu'on appelle supernova, si elle est assez grande, c'est-à-dire qu'elle explose, et lors de cette explosion, elle fait une fusion des éléments les plus légers qu'elle contient, allant jusqu'au fer, etc. Donc la création des atomes hydrogène et oxygène est très, très tôt dans la formation de l'univers, peut-être 15 milliards ou 14 milliards d'années, quelque chose comme ça. Donc l'oxygène et l'hydrogène existent dans l'univers depuis cette date-là. La forme, la combinaison de ces deux molécules pour former de l'eau dépend des conditions de température et de pression. Donc il a fallu que la matière éjectée dans les nuages intergalactiques de poussière se refroidisse suffisamment pour que s'unissent l'hydrogène et l'oxygène, mais ceci a dû se former après l'explosion de la première étoile, enfin dans les tout premiers temps de l'univers.
Une autre question ? Oui, le monsieur là-bas. Voilà.
Merci. J'ai deux remarques en fait à faire, une très courte et une moyenne. Pour rester dans le domaine de l'univers, je me posais une question sur l'explication que vous avez donnée sur Mars, sur le fait que l'eau avait disparu par l'action du rayonnement solaire sur les molécules d'eau. Donc l'hydrogène léger disparaissait. Que devenait l'oxygène ? Je me posais cette question-là. Et une deuxième remarque que je ferai, je me félicite de votre conférence. Vous avez abordé plusieurs fois la question des problèmes économiques en ce qui concerne l'eau. C'est pas un reproche que je vous fais parce que c'était pas le lieu de votre propos, mais j'aimerais rappeler aussi que ce problème économique là n'est pas en l'air. C'est quelque chose qui offre des réflexions, des débats, des réunions, des conférences à l'heure actuelle. Il y a, je crois, une espèce de gouvernement de l'eau qui existe plus ou moins avec des réunions qui ont lieu d'ailleurs cette année. Sauf que généralement, ces réunions concernent plutôt le domaine privé, c'est-à-dire qu'on voit aussi à l'œuvre à l'heure actuelle sur la question de l'eau tout un travail de la part des multinationales, de la part des entreprises pour essayer de faire de cette question de l'eau un marché et non pas une question humaine. C'est un problème économique, effectivement, pour elles, mais une autre phase, un autre aspect de l'économie. J'aimerais rappeler qu'en France, on est aussi un des rares pays où l'eau est à ce point privatisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce problème-là, et vous l'avez souligné, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, si on globalisait le problème de l'eau, c'est un problème qui pourrait être résolu puisque ce n'est qu'une question économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette question de l'eau soit remise plutôt dans les mains de l'ONU, qui a par exemple toutes sortes de programmes dans différents domaines de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Que fait l'ONU sur cette question-là ? Est-ce que l'ONU va mettre en place des structures internationales pour discuter, gérer la question de l'eau ? Voilà, donc il y avait ces deux remarques.
Bien, allons vite pour la première. L'hypothèse que j'ai dite pour Mars, c'est une hypothèse, ce n'est pas une démonstration. L'oxygène reste sur la planète, dans la mesure où il est beaucoup plus lourd, c'est une masse de 16 par rapport à une masse de 2 pour l'hydrogène, et donc il reste dans le champ gravitationnel, et il oxyde les roches, c'est-à-dire qu'on va retrouver une oxydation des minéraux présents sur Mars, comme ça s'est produit d'ailleurs sur Terre. Vous savez que il y a environ 1 milliard d'âges de la Terre, l'oxygène a été formé, et l'oxygène a été formé non pas par le départ de l'hydrogène dans l'atmosphère, mais sur Terre, par le développement de la vie. C'est les premières algues qui ont fabriqué de l'oxygène, et à l'âge d'à peu près 1 milliard et demi d'années, eh bien, il y a eu apport d'oxygène sur Terre qui a créé d'énormes gisements de fer oxydé que l'on retrouve encore aujourd'hui. Donc l'oxygène se fixe chimiquement avec les roches pour rester sur la planète en question. Alors la deuxième question qui est très intéressante concernant l'économie, ça ouvrirait un débat assez long, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est vrai qu'il s'est tenu à La Haye, en mars de cette année, une grande conférence sur le problème de l'eau. Cette conférence étant l'initiative de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a donc, avec les Nations Unies, organisé une sorte de conférence mondiale et elle a voulu imposer ou proposer quelque chose que je n'aime pas beaucoup, qu'on appelle la vision mondiale sur l'eau, the water vision. Et cette vision est effectivement une vision de banquier, c'est-à-dire que c'est une vision, un peu comme vous le disiez, de dire, eh bien, le problème de l'eau est tellement lourd et tellement cher et tellement compliqué qu'on va le privatiser. C'est donc de dire, finalement, laissons au privé le soin de résoudre ce problème économique, puisqu'il a montré plus d'habilité à résoudre des problèmes économiques que les systèmes étatiques. Alors, c'est effectivement ce qui se fait un peu en France, en ce sens que la distribution de l'eau est entre les mains, en général, de 2 ou 3 grands groupes industriels qui sont, pour le compte des municipalités, puisque c'est les maires qui sont responsables de la distribution de l'eau, chargés de gérer les installations ou de faire fonctionner les installations. Alors, ce modèle se répand effectivement dans le monde, et je pense que, indépendamment des problèmes éthiques qu'on pourrait se poser, c'est un problème qui a montré, une méthode qui a montré son efficacité, mais qui a montré son efficacité à partir du moment où il existe des populations solvables. Autrement dit, des gens qui ont une économie peut-être développante, en voie de développement, mais une économie quand même qui permet que des investissements faits par un investisseur privé pour construire un barrage, amener des distributions par conduite, installer les assainissements correspondants, puisse récupérer sa mise en faisant payer ses services à ceux qui les consomment. Donc à partir du moment où on a une économie qui permet ce genre de choses, on peut envisager de faire la privatisation de l'eau. Et c'est vers cela que la vision de l'eau imposée par l'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale tend. Mais ceci néglige totalement les pays insolvables. Autrement dit, les pays insolvables dans lesquels cette méthode économique de traiter le problème pourrait être utilisée, bon, ne seront jamais pris en compte par le privé. Donc on reste avec un énorme problème sur les bras qui n'est pas traité pour l'instant. Donc cette vision me paraît très restrictive et ne pas s'adresser à la totalité du problème. Je voudrais simplement dire sur le problème économique un petit point, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est intéressant. Je vous ai dit que, par exemple, la Libye va produire du blé en irriguant à partir de l'eau qu'elle a fait venir du Sahara à des coûts économiques extrêmement importants. Donc, si on raisonne économiquement sur la planète, on pourrait dire, plutôt que d'amener qu'elle vienne du Sahara ou qu'elle vienne de l'Amazone de l'eau à la Libye pour qu'elle produise son blé, il est beaucoup plus économique et intéressant de produire le blé dans les zones naturellement imposées et d'exporter le blé en Libye plutôt que l'eau pour faire le blé. Pour faire 1 tonne de blé, il faut 1000 tonnes d'eau. Donc si je dois exporter quelque chose, autant exporter 1 tonne de blé que d'exporter 1000 tonnes d'eau pour faire 1 tonne de blé. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire au lieu d'apporter de l'eau aux gens qui vont en avoir besoin, et vous rappelez que les besoins essentiels sont des besoins d'agriculture, c'est-à-dire d'irrigation, dans une hypothèse d'autonomie des populations, eh bien on peut dire on vous amène de l'eau virtuelle en faisant pousser du blé ailleurs et en l'amenant. Donc c'est une autre façon de régler de façon un peu économique le problème de l'eau.
Une question là, le micro arrive.
Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question, monsieur.
Et une question après ici.
Oui, je voudrais vous demander si quand on irrigue énormément, est-ce qu'on change les microclimats et est-ce qu'on arrive à faire de zones arides, des zones qui attirent l'eau naturelle? Est-ce qu'il y a un cycle qui se forme?
Alors écoutez, c'est une question qui a été assez longtemps débattue. Je n'ai pas eu le temps d'insister, mais je vais vous remonter un transparent que j'avais mis. J'étais plusieurs fois en Inde pour travailler avec des collègues indiens et l'irrigation en Inde est devenue très importante. Et voilà ce que j'avais indiqué. Il semblerait qu'en Inde, on constate que la pluie a augmenté d'environ 5% depuis que l'on fait ces irrigations. Donc ce que vous dites serait, mais c'est encore une hypothèse, serait vrai, c'est-à-dire que l'eau évaporée en plus grande quantité dans l'atmosphère sur les continents finisse par retomber et augmenter la pluie. Donc l'eau ne serait pas entièrement perdue puisqu'elle retomberait sur Terre. Alors c'est une idée qui a été très fortement débattue, il y a d'ailleurs un collègue ici dans la salle qui avait travaillé là-dessus, dans le projet qui a été longtemps mis au point de création d'une mer intérieure au Sahara. Il s'agissait de dire, vous savez que le centre du Sahara est à une cote inférieure à la cote du niveau de la mer, il est à environ à moins 20, moins 30. Donc le projet était simplement de construire un grand canal qui partirait de l'angle de la Libye et de la Tunisie et qui se dirigerait sur environ 1000 km pour amener de l'eau de mer au Sahara. Cette eau de mer arrivant dans cette dépression la comblerait, elle s'évaporerait et elle pourrait éventuellement créer un microclimat, lequel permettrait au voisinage de cette mer intérieure évaporante d'avoir un climat différent. Alors, le grand problème de cette optique, c'est qu'il est très vraisemblable que ce microclimat, s'il existe, ne serait pas en Algérie. Il irait plutôt peut-être au Soudan ou en Égypte. Donc, où l'augmentation de la précipitation due au fait que l'atmosphère est plus riche en eau se traduit par des pluies augmentées n'est pas évident. Donc, on ne sait pas où va se faire le microclimat et on n'est pas vraiment en mesure aujourd'hui de répondre à cette question. Une question un peu plus préoccupante, mais qui est exactement dans le même sens, est de dire que cette eau qui s'évapore dans les pays irrigués, les pays chauds irrigués, finalement, monte dans l'atmosphère et elle va, en se condensant sous forme de nuages, restituer à l'atmosphère l'énergie de condensation. Vous savez que pour vaporiser de l'eau, il faut lui fournir de l'énergie. Quand elle se condense, elle rend cette énergie. Donc on amène à la machine climatique atmosphérique une quantité extrêmement importante d'énergie supplémentaire par l'augmentation de l'évaporation que représente l'irrigation. Alors la question qui se pose, c'est que, comment réagit l'atmosphère à cet apport supplémentaire d'énergie ? Et certains disent, sans pouvoir le prouver, que les tornades, les siphons, vous savez, les grands phénomènes que l'on observe sur certaines parties de l'océan et qui se traduisent par des ouragans qui viennent frapper, par exemple, souvent la Floride et les côtes ouest des États-Unis ou certains pays dans le Pacifique, auraient une fréquence accrue et une importance plus grande, peut-être liée à cette modification des microclimats liée à l'évaporation dont vous parlez. Donc c'est une vraie préoccupation.
Bonsoir, vous indiquiez à la fin de votre conférence qu'à très court terme, quelques décennies, le climat se réchaufferait, ce qui aurait pour conséquence d'amoindrir les précipitations. Il y a environ 10 000 ans, en Afrique tropicale, il y avait également un réchauffement de la planète par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Les précipitations étaient par contre supérieures. Comment se fait-il que, dans votre scénario, les précipitations soient inférieures ?
Alors d'abord, ce n'est pas mon scénario. Je suis géologue et donc dès que j'arrive dans l'atmosphère, je commence à dire des bêtises, ou je risque d'en dire. Mais je peux vous montrer quelques transparents issus d'un rapport qui a été publié par le ministère de l'Environnement il y a environ un an et qui essaye de prévoir les effets du changement climatique pour la France. Alors, on va prendre un des transparents et c'est les précipitations automnales. Voilà, je prends celle-là, il y a plusieurs cartes. Et dans l'hypothèse d'un doublement du CO2 atmosphérique et dans l'hypothèse que ce doublement se traduirait par une augmentation de la température de l'ordre de 2 ou 3 degrés, eh bien, les calculs faits avec les modèles atmosphériques de circulation générale conduisent, pour le cas de la France, à... Bon, la carte n'est pas très claire, mais à une diminution de l'ordre de... Vous voyez, le jaune, ça correspond à peu près à moins 0,6 mm par jour. Donc on aurait, pour les pluies automnales, l'essentiel de la carte, vous voyez, est à peu près jaune, une diminution de quelques fractions de millimètres par jour, ce qui n'est pas négligeable, des précipitations en France. C'est le résultat d'un calcul avec un modèle qui vaut ce qu'il vaut et des hypothèses qui valent ce qu'elles valent. Alors, ceci, c'est vrai pour la France. Globalement, les pluies... sur les continents, enfin sur l'ensemble des continents et des océans, vont rester à peu près les mêmes. Elles seront réparties différemment. Donc en France, il semblerait que ça conduise à une réduction des précipitations, principalement dans les parties du sud de la France. Il se peut très bien que l'Europe du Nord soit plus arrosée ou que les régions tropicales soient elles-mêmes plus arrosées. Donc c'est simplement une répartition différente dans l'espace des volumes de précipitations qui resteraient à peu près les mêmes. Alors on peut même dire que ces mêmes calculs ont été faits par les Américains il y a quelques années. Et ils ont conclu que globalement, pour l'Amérique, les variations des précipitations seraient négligeables. D'où la très grande réticence des Américains à, disons, partager les problèmes de réduction de l'effet de serre. C'est-à-dire, les Américains, vous avez vu, ils freinent des cas de fer pour réduire les émissions de CO2. Bien, c'est pour tout simplement parce que leurs modèles leur prédisent que, eux, finalement, ça ne leur touchera pas beaucoup. Donc, si leurs modèles sont faux, bon, ben, tant pis pour eux. Si leurs modèles sont vrais, c'est nous qui allons trinquer.
Une toute dernière question, monsieur, allez-y.
Monsieur, vous avez mentionné la Pologne dans votre carte de stress hydrique pour les années 2020. Le pays aura 70 millions d'habitants et fera partie vraisemblablement de l'Union européenne. Quelles sont les conditions de ce stress hydrique et pourquoi pas la Biélorussie ou l'Ukraine ?
Alors là, je ne peux pas vous répondre sur la deuxième partie de votre question. C'est-à-dire pourquoi pas la Biélorussie et l'Ukraine. C'est simplement le résultat de l'application, je dirais mathématique, des hypothèses de ce calcul, qui est de dire Quelle est la démographie de la Pologne dans les années 2025? Vous dites le chiffre de 70 millions d'habitants, je ne le connais pas personnellement, mais je vous crois. Si on regarde le nombre de mètres cubes d'eau aujourd'hui disponibles en Pologne, hein, en prenant ce qui ruisselle ou ce qui s'écoule, eh bien, divisé par 70 millions d'habitants, ça fait moins que le chiffre magique de 1000 mètres cubes par an. Donc c'est ce calcul qui conduit à ce résultat-là, alors que le même calcul conduit par la Biélorussie n'y conduit pas. C'est tout.
Gislaine, merci. Je vous remercie.